Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 151. Mon nom est Paul Landriau et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
We're back!
C'était le temps?
Ouais, c'était le temps qu'on se retrouve là.
Ouais. Ben oui, un bon congé d'un mois et demi qui nous a tous fait du bien. On a tous eu. Puis dans le monde de l'Internet, j'ai l'impression, tu sais, un mois et demi, c'est comme une éternité.
Ouais,
fait c'est j'ai quasiment l'impression qu'on. C'est comme un reboot de point de vue.
Ouais, Donald Trump a eu le temps de faire tellement de niaiseries dans une semaine que. C'est juste ça, là, ça change le cours du temps.
Ouais. Ben là, notre mois de janvier a quand même une première moitié. Ben, disons, les premiers jours de janvier ont quand même été occupés à point de vue, hein, Paul?
Oui, ben, on a publié tous nos top 10.
Ben, c'est ça. Ben, c'est ça.
Donc, ça, c'est en tout cas notre tradition habituelle. Mm-hmm. On aime toujours ça faire ça. Puis là, c'est drôle parce que tu vois, comme moi, je l'ai écrit donc fin décembre. Puis là, le temps que je revienne à vacances, que je publie tout ça, tu sais, j'ai publié le mien, je pense, le 11 janvier. Là, on est rendu le 30 à l'heure où on enregistre. Puis mon top 10, il aurait pas mal changé déjà parce que moi, j'ai vu plein d'autres films depuis que j'avais pas eu le temps de voir.
Lesquels en rafale, genre
Mais comme notre podium de l'année. D'équipe, ouais.
Là. Aucun des trois.
J'avais vu aucun des trois films sur le podium.
Oh, man.
Puis ça, pour vrai, je me sentais quand même mal, là.
Ouais.
juste le rappeler.
C'est moi qui étais shamé en décembre parce que j'avais pas vu assez de films sur les podiums précédents, là.
Mm. Ouais,
je suis content.
Ouais.
Là, je me suis rattrapé.
Donc, juste pour rappel, le podium de 2016 de l'équipe de Point de vue. Donc, en pole position, American Honey. Qui était vraiment comme pas mal sur tous les tops, là, sauf le mien, là. Puis celui à Mario parce que c'est un top télé.
Ben tout,
c'est
parce que t'avais Popstar, fait que tu voulais faire de la place pour Popstar dans ton top, fait que t'as...
Exactement. Mais je l'ai vu justement American Honey cette semaine.
Ah!
Ouais, donc là j'ai eu le temps de le rattraper. Très bon film, hein, puis vraiment ça, un film qui a fait l'unanimité au sein de l'équipe, donc ça c'est vraiment le gagnant, tu sais, il y avait vraiment un gros gap entre le premier film puis les autres films.
Ouais, mais moi ça m'a surpris quand même, parce que j'ai porté ce film-là à fond, je n'ai parlé avec enthousiasme, tu sais, tout le long de l'année, depuis que je l'ai vu, disons, mais ceci dit, c'est quand même pas le suspect de convenance numéro un, tu sais, dans les autres publications, par exemple, ou, tu sais, je veux dire, c'est un film qui a quand même eu des très très bonnes critiques, ça a quand même eu un prix à Cannes, c'est sûr, c'est un des films, mais que ce soit le film qui se démarque, c'est quand même une surprise, je trouve, du moins.
Mais il est quand même accessible, en fait. Je pense que c'est ça sa force, c'est qu'il est...
Mm-hmm.
C'est un film d'auteur, c'est un film long aussi, là, mais ça reste que tout ce road trip-là est assez ouvert, puis on peut facilement entrer dedans, c'est pas...
Oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il y a quand même une certaine... Ben, lenteur, c'est pas le bon mot, mais tu sais, des fois, le film, il est un peu indiscipliné, il est un peu égaré, tu sais, il y a des moments où l'énergie tombe, mais tu sais, moi, j'argumente que je trouve que ça fait partie du film, dans le sens où,
ouais.
dans tout bon voyage, t'as les moments d'extase, d'euphorie, puis t'as les moments où ça drop, tu sais, bon, moi, je trouve que ça fait partie de l'expérience dans sa globalité, mais je sais que il y a quand même des gens autour de moi que je sais qui ont vu, tu sais, qui ont trouvé que le film était trop long, qui était redondant, qui aurait pu être écourté, bon... Fait que je pense qu'il faut quand même vraiment embarquer, puis là on accepte tout, mais si on n'embarque pas, c'est vrai que ça peut être une ride qui est pas nécessairement, je sais pas, toujours agréable, là, disons ça comme ça, mais non, mais moi j'ai été bien content de voir ça, trôner au sommet, parce que moi vous le savez, c'est un film que j'adore d'amour.
Ouais. Puis honnêtement, comme, tu sais, je pense aussi que par notre formation à point de vue, puis par un peu notre esprit d'équipe, forcément, tu sais, je pense qu'on s'influence l'un l'autre. Puis, tu sais, je pense qu'on est tous un peu aussi des esthètes quand même. Tu sais, le côté formaliste un peu du film, puis ça, vraiment, c'est une grande force du film. Le film est beau, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ouais. le DOP Robbie Ryan, moi, je trouve que c'est le MVP du film. Beaucoup plus que, mettons, Sacha Lane ou que, tu sais, moi, j'ai vraiment trouvé que le film, là, il est incroyablement beau au niveau comme en plastique, mais pas seulement comme au niveau des couleurs, c'est aussi comme les mouvements de caméra, la composition, le montage aussi d'un plan à l'autre. Donc, juste pour ça, je pense que...
C'est un film vraiment naturel, en fait, puis c'est ça qui est cool, que la photo reste assez léchée pour un film qui... Ben, c'est ça, super naturaliste, là. Mm-hmm. Parce que ça pourrait se perdre un peu dans le côté... pas brouillon, là, mais tu sais, dans le côté instantané de quand tu essaies de faire du cinéma réaliste, c'est assez, simple, puis c'est assez drabe, mais là, ils sont vraiment allés à l'encontre, puis c'est cool, hein, ça rayonne.
Puis uniquement le sujet, t'sais, d'avoir des personnages comme ça, qui sont un peu différents de ce qu'on voit d'habitude, t'sais, des personnages tatoués, puis qui déconnent ensemble. T'sais, en tout cas, le film a plein de qualités, donc je suis très content, en fait, qu'on ait ce numéro 1-là. Pour le reste du top, du podium d'équipe, il y avait dans l'ordre Tony Erdmann, Mademoiselle, La La Land, Elle, O.J. Made in America, The Neon Demon, The Wailing, Arrival et Patterson.
C'est un bon top, hein?
Ouais, est-ce qu'il y a un film... Belle année. Il y a un film dont on n'a jamais parlé au podcast, et là, il est d'actualité plus que jamais. La La Land, là. Mm-hmm. Parce que là, bon, 14 nominations aux Oscars, c'est quand même le film qui brille. En même temps, Moonlight, tu sais, toutes les board of reviews, les critiques semblent plus... pencher du côté de Moonlight, mais du côté des Oscars, on semble penser que La La Land sort du lot. Ça reste quand même une course à deux. Tu sais, pendant longtemps, c'était une course à trois avec Manchester by the Sea. Là, je pense que ça se dessine vraiment comme une course à deux. Je sais que toi, Paul, t'es un peu une écœurantite des Oscars, mais au-delà des Oscars, juste le film, il y a juste une chose que je veux dire sur La La Land. Bon, moi, j'ai adoré. Vous l'avez vu, là, je l'ai mis genre numéro 2 dans mon top. Moi, la magie a opéré. Et la magie a opéré au point où aveuglément, je me contrefiche de ses défauts. Ce que je veux dire par là, c'est que... non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Bon, je pense que le film emprunte...
Je t'aime, Pascal. Je suis content que tu
non,
dises ça.
Non, mais c'est parce qu'après ça, je veux venir sur quelque chose qui est un peu plus d'actualité. Je veux prendre ce film-là pour parler d'autre chose un peu. Excuse-moi de prendre en otage un petit peu ton intro, Paul. Là. Mais c'est que... Tu sais, La La Land, justement, ça appuie dans les musicals des années 30, ça appuie dans les musicals des années 50, bon, Singing in the Rain, évidemment, ça appuie un peu chez Jacques Demy, tout ça, bon. Et puis là, vient un backlash incroyable, tu sais, sur le fait que ce soit, tu sais, finalement, un film sur un film plus blanc, que ça représente pas Los Angeles et tout ça. Ça essaie de s'immiscer dans un débat contemporain alors que le film puise complètement... ses influences dans un côté rétro. Mon point, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce film-là est critiqué à droite à gauche de toutes sortes de façons, mais rarement, en fait, pour comme film, finalement. Il devient un symbole, il devient un emblème qu'on a envie de détruire. Il devient, je sais pas, un genre de... C'est un symbole bizarre, d'Hollywood décadent, arriéré, alors que Moonlight représenterait quelque chose de plus. C'est un débat intéressant... Mais franchement, là, c'est peut-être parce que mon Facebook est vraiment particulier, là, mais là, franchement, je veux dire, faut amener, faut arrêter, là.
C'est le lot de tout film qui a une aussi grande comme reconnaissance publique et critique. Ouais. Puis c'est un réflexe, des fois aussi, que les gens ont, puis je m'inclus là-dedans, les critiques, puis tout ça, d'essayer de défendre un peu le petit film que personne n'a vu, puis tu sais, le film un peu oublié. Puis de peut-être lever le nez sur justement le gros film. T'sais, on se rappelle, c'est un peu le même pattern que The Artist il y a quelques années. Au début, quand les gens le découvraient, t'es comme ah, oh, vous devez absolument voir The Artist, c'est génial. Là, il devient une espèce de gros film poussé par la machine de marketing.
C'est plus si bon que ça. Tout à coup. Là.
Ouais, donc.
J'ai vu beaucoup dans mon feed là, des critiques vraiment. Là, c'était de la merde. C'est comme moi, ouais, mais. Je sais pas, le film remplit le mandat qu'il est censé remplir, fait comme à un moment donné, faut pas que tu... Je sais pas, on dirait que souvent les gens, ils basent leur critique sur l'attente qu'il y avait envers un film, puis c'est comme final...
Mais c'est parce que je sais que c'est délicat, mais c'est parce qu'à un certain point, un film n'est pas le porte-étendard de la veuve et l'orphelin, de toutes les cultures, de toutes les tranches d'âge, de tout le monde qui respire de l'air sur la planète Terre aussi. Je pense que, tu sais... Puis je dis ça, puis je veux dire... encore là, je pense que j'ai rien à prouver. Je veux dire, l'an passé, j'avais Dope et Tangerine dans mon top 10. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé Moonlight. Ça a pas rapport nécessairement. C'est juste que je commence à trouver que, d'une certaine façon, le discours, la carte de la diversité n'est pas non plus tout. Ah, c'est extrêmement important. C'est un sujet délicat. C'est extrêmement important. Ma manée aussi, je veux dire, je pense qu'il faut pas complètement bouder son plaisir. Puis tabarnak, je veux dire, La La Land, pour moi, OK, oui, moi, la magie a complètement opéré. Je veux dire, la poudre aux yeux. Même, j'ai regardé des making-of cette semaine. Là, il y a des vidéos making-of qui sont sorties sur comment ils font le numéro d'ouverture. C'est complètement hallucinant. Puis je pense que ce que je nous souhaite en 2017, parce que c'est notre premier podcast de 2017, je voulais juste ouvrir là-dessus. Je nous souhaite un peu moins de cynisme aussi. Puis je pense que le cinéma peut juste être un porteur de magie. Okay? Puis ça veut pas nécessairement dire de s'oublier puis d'oublier la réalité à travers le cinéma, mais ça veut dire que le cinéma peut être un remède, peut être une cure, puis peut être finalement nous éduquer, ouvrir notre empathie, tout ça, c'est tout ça le cinéma. Puis tu sais, je veux dire, si un film comme La La Land, on le noie dans le cynisme, qu'est-ce qui nous reste, bordel? Tu sais, m'amener, là. C'est un beau musical, là. C'est fait par un gars qui visiblement a le cœur à la bonne place pour faire un film qui rend hommage à tous, tu sais, les films qu'il a aimés en grandissant. Puis là, tout à coup, il est complètement noyé.
Oui, il se fait blaster, puis des niaiseries. Ouais, mais je sais, j'ai vu aussi comme, oh my God, c'est encore un film de deux blancs qui jouent du jazz. C'est comme, my God, sérieux, là, on va-tu vraiment critiquer à propos de ça, là?
Dave Brubeck, c'est malade, là. Dave Brubeck faisait du jazz dans les années 50, puis tu sais, je sais, mais mon point, en tout cas, je veux pas non plus partir...
Non, puis je comprends, tu sais, mais... il y avait le discours l'année passée, les Oscars so white, puis je comprends, là, Mané, qu'il faut vraiment qu'on...
Ben oui.
Il faut pousser ça à la diversité, puis... Mais c'est juste qu'à Mané, il y a une balance aussi à aller chercher, là, on peut pas tout le temps, tu sais, c'est... Ben, le film, c'est ça qui est ça, là.
Mais c'est ça. Mais aux Oscars, cette année, c'est vrai qu'il y a eu un très beau revirement du fameux Oscar So White. Je sais juste dans les documentaires, on a 13th de Ava DuVernay, on a O.J. Made in America et il y a I Am Not Your Negro non plus. Tu sais, fait que je veux dire, ailleurs, en tout cas, moi, je pense que les temps changent, puis il y a quand même une certaine forme d'optimisme, surtout, par exemple, quand on regarde le line-up des Oscars à ce niveau-là. Puis une grande année pour les femmes, on l'a dit beaucoup, hein, si on est en rétrospectif. Ouais. Beaucoup de super beaux rôles pour des femmes de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ça, c'est vraiment super au niveau diversité. Plein de films. Tu sais, je disais, Moonlight n'est pas le seul dans sa catégorie, on s'entend, il y en a eu beaucoup d'autres. Oui, j'ai vu récemment aussi Dear White People que Benjamin Pelletier avait adoré, avait mis dans son top 10 il y a 2 ans. Un super bon film. Donc, il y en a, les temps changent, mais on peut-tu souhaiter un petit peu moins de cynisme quand même? Je crois que si on pouvait commencer l'année cinéma un peu comme ça, ça ferait du bien. Voilà!
Bon, ben, amen, wow. Pascal.
Ouais.
Preach! Bon. Donc,
hey, parlant de cynisme, je peux-tu juste faire un petit crush sur quelque chose? Je sais pas si on s'en allait vers ça, mais c'est parce qu'en Europe, j'ai vu vraiment beaucoup de films. Je suis passé trois semaines en Europe.
Ah oui?
Puis j'ai vraiment regardé énormément de cinéma, mais j'ai rattrapé beaucoup de films aussi qui avaient été comme... tu sais, les mauvais films que tu rattrapes dans l'avion, finalement. Mmh. Je veux juste vous dire que vous aviez raison pour King Dave. Vous aviez raison pour Batman v Superman. Vous aviez... Hey, non, sérieux, j'en ai enchaîné. Mais je voulais juste les voir, puis comme avoir ma propre critique. Puis tu sais, King Dave, je voulais vraiment le voir. J'étais vraiment curieux de voir le truc. Puis je pense que vos critiques étaient justes. Puis c'est comme... C'est juste dommage comme film. Là. C'est un film qui pourrait tellement être plus que ce que c'est. Puis... C'est malade techniquement, c'est hallucinant, puis t'as juste un comédien qui est peut-être un peu trop vieux pour le rôle qu'il joue, t'as un texte qui a été pas adapté en fait, qui a juste été laissé tel quel, puis qui devient, moi pour vrai, à Mané, ça devenait du bruit là, quand il décrit tout ce qu'il fait, en tout cas, j'ai vu ça, j'ai vu un vraiment grosse déception de 2016, d'American Pastoral,
on
n'avait pas parlé au podcast, mais comme... Ça, c'est, je pense que c'est le pire film que j'ai vu en Europe. J'ai vu plein de bons trucs, par exemple.
C'est quoi, mais juste vous dire, j'ai rattrapé. C'est quoi déjà?
C'est le film d'Ewan McGregor qui a réalisé son premier long métrage comme réalisateur. C'est basé sur un Pulitzer, là, c'est genre un gros roman. Là, c'est un master roman là, à s'attaquer. Là. Tu sais, je suis comme allé lire après pour savoir qu'est-ce qu'il en était de ce livre-là parce que je suis pas un grand lecteur, fait que fallait que je m'informe un peu, mais. Tu sais, le film, ça va pas, là. Tu vois qu'il y a des... Genre, tu le sens, là, qu'il y a des chapitres qui ont été complètement arrachés. Il y a des maladresses de mise en scène, là, pas possible, là. C'est une catastrophe, bon, là, vraiment, bon, ce film-là.
Mais ce dit, pour les chapitres enlevés, tu sais, ça, c'est pas un problème en soi.
C'est ça.
Ça dépend uniquement de l'adaptation.
Non, mais t'sais. C'est parce que quand tu le sens vraiment dans un film, c'est qu'il y a un problème, là. Quand c'est pas fait avec... Avec, tu sais, faut que tu le fasses de la bonne façon pour justement qu'il y ait une continuité, qu'il y ait un flow dans le film. Mais tu sais, quand t'as des ellipses qui se peuvent pas, puis tu fais, voyons, je suis rendu où, là? Mm-hmm. C'est, Ouais. Mais c'est ça, mais quand même, j'ai vu vraiment beaucoup de bons films. J'étais allé voir à Paris, j'ai fait un 4 films de suite. J'étais allé voir My Name, l'animé qui est incroyable.
Your Name.
J'ai en fait. Oh,
Your Name?
C'est My ouais. Name, My Name.
Non, c'est Your Name.
C'est Your Name?
Ouais, parce que justement, c'est comme ton nom,
je me
mon
suis
nom, puis tu sais, ils changent de corps, puis.
Ou c'est peut-être le titre français, le titre en France.
Oh,
tu changes tout le temps un mot en anglais.
Ils ont-tu traduit Your Name par My Name?
Ben.
My name therapy.
c'est ça. Puis ben, tout de suite après, j'ai vu Ma Vie de Courgette, Monster Call qui a fini dans mon top. T'sais, Ma Vie de Courgette, pour vrai, il aurait pu se retrouver dans mon top aussi. C'était magnifique. Puis Nocturnal Animal. Nocturnal Animal qui était finalement bon sur le coup, moins bon en y repensant.
Ouais.
Sûrement moins bon parce que c'était comme le quatrième fucking bon film que je voyais back-à-back.
Ouais.
Fait que ça comme. Ça brise un peu tes illusions, là, mais... Ouais, puis j'ai eu ma soirée aussi où j'ai vraiment pensé à Paul, où j'ai regardé Démolition, puis j'ai vu Love Actually, un film que Paul déteste. J'ai enchaîné back-à-back. Ça, c'est... Ouais. J'avais juste à côté de moi, Paul. Love Actually, j'ai vraiment aimé ça, sauf une des parties de... Genre la partie cute, là, avec les cartons, là, cette
niaiserie-là. La fameuse.
Ça, là, ça, genre, ça m'a... Ça, j'ai trouvé ça wrong, là. C'est censé être cute, là. Ça a l'air que j'avais pas de cœur de dire ça, mais j'ai trouvé ça vraiment malaisant comme scène.
Mais apporter une précision, c'est pas que je déteste Love Actually nécessairement. C'est juste que, genre, le ratio qualité de ce film-là versus la, comme le hype autour, le statut culte, là. Comme que ce film-là soit le film préféré de tant de gens, ça me dépasse. C'est juste ça.
Ben, je sais pas. Moi, j'ai regardé une comédie romantique, puis j'ai pas. Les histoires sont débalancées, elles sont pas toutes malades, mais.
Ouais.
C'était. Mais ouais, j'ai une petite pensée pour toi. Puis Démolition, c'est pas si pire. Hein.
Ouais.
Point. Silence. Laisse le silence sur toi.
Ouais, on va laisser ça.
Juste qu'on regarde ça. Non, mais c'est correct. Bon. Je pense pas.
Hey, savez-vous ce qui est le fun de faire un podcast avec deux collègues quand ça fait un mois et demi que t'en as pas fait? T'as même pas le temps de faire tes actualités que là, tes collègues veulent absolument parler puis raconter qu'est-ce qui se passe.
Ça nous démange, on est complètement indisciplinés.
Ben oui,
j'ai ma liste de films que j'ai vu ouverte à côté de moi puis j'ai le goût de parler tout en même temps. Là, c'est comme j'aurais tellement de choses à dire. Ok, vas-y, Paul.
Laisse Paul s'actualiser. Là. Ouais, Paul, actualise.
Non, mais juste, c'est quelques annonces en fait qui sont quand même importantes. Déjà, un rappel qu'il y a le festival en ligne myfrenchfilmfestival.com, donc un festival français, en fait de cinéma francophone, parce qu'il y a quelques films québécois dans le lot. Et donc, vous pouvez aller sur le site, c'est 10 longs-métrages et 16 courts-métrages. Les courts-métrages sont tous gratuits, donc n'importe où dans le monde, vous pouvez voir les courts-métrages. Et il y a deux courts québécois sélectionnés cette année, Viaduc de Patrice Liberté, ainsi que Une formalité, qui avait joué d'ailleurs au Festival Plein Écran. Deux très bons cours parmi ces deux-là, en tout cas. Donc, ça vaut la peine. Et donc, c'est jusqu'au 13 février. Alors, vous pouvez vous rendre directement au myfrenchfilmfestival.com. Pour les longs-métrages, il faut payer à la carte ou prendre un tarif comme une passe à 20 €, je pense, quelque chose comme ça, pour l'ensemble des films. Sinon, point de vue maintenant, le site web a été catalogué aux Banques et Archives nationales du Québec.
Hein?
Ça, c'est vraiment bien, c'est une belle reconnaissance et ça fait que, dans le fond, le site web maintenant fait partie de la collection des Archives nationales du Québec, donc c'est comme pour la postérité. Et si jamais il y a des chercheurs ou des gens qui vont à la bibliothèque directement, tu sais, à la grande bibliothèque pour faire des recherches, ils vont peut-être tomber sur un de nos articles ou sur un de nos épisodes, ils pourront même les écouter sur place, tu sais, comme même si c'est hors ligne ou peu importe.
Fait que le stalker numéro 1 de Delphine Larose est archivé à tout jamais.
Ouais. Je t'inquiète. Effectivement. Puis le 5 étoiles boyhood, tout ça.
Ah ouais, c'est bon ça.
Aussi, un grand moment de reconnaissance.
On l'aime, Delphine. On l'aime beaucoup, on taquine.
Autre moment de reconnaissance pour l'équipe de Point de vue, c'est que Benjamin Pelletier, Olivier Bouchard et moi-même avons été acceptés dans l'Association québécoise des critiques de cinéma.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment un très gros signe de reconnaissance. Moi, je suis très fier et très reconnaissant envers la QCC. Et ça nous apporte plein d'avantages, mais surtout, je pense, une espèce de, tu sais, une marque de reconnaissance de nos pairs, de nos collègues, de l'industrie, du milieu. Donc ça ajoute un peu de crédibilité, je pense, aussi au site web. Donc ça, c'est... et on va pouvoir voter pour les prochains Iris, entre autres. Donc, c'est très bien. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé dans les nominés Popstar, Never Stop, Never Stopping. Il y a peut-être dû avoir une erreur, mais je vais écrire à Ciné-Québec. Sinon, hey, quelque chose que je veux absolument parler. Rémi, j'aimerais ça que tu nous en parles, parce que nous, on s'en est parlé un peu l'autre jour. Mais c'est quoi le prochain Kino Cabaret? C'est quoi le concept? Puis c'est quoi ton film là-dedans? Là?
Ah oui, ben en fait, c'est un cabaret alternatif. Là. Ils font ça à travers Kino. Il y a toujours des... Tu sais, il y a le cabaret à l'automne, mais il y a aussi des genres de... C'est un cabaret alternatif, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais c'est... En fait, c'est que t'as un petit peu plus de temps pour faire ton film, puis c'est souvent des partenariats. Donc, il y en avait un qui avait été fait avec la BANQ, la bibliothèque, qui était une association entre des auteurs puis des cinéastes. Puis là, ben, c'est un cabaret Kino en collaboration avec l'OSM. Puis là, il y a la soirée de projection, ben là, je vais dire ce vendredi, là, mais en fait, pour ceux qui... c'est vendredi le 3 février. Donc, c'est la projection à l'Astral, la projection régulière de Kino. Sauf qu'il y a un pianiste de l'OSM qui va être sur place, qui va accompagner les films avec son piano. Donc, 6 films muets qui ont été réalisés spécialement pour cet événement-là. Et il y a un des 6 films qui va se retrouver à travers une projection. C'est la 3e semaine de février, il me semble. Donc, ce film gagnant-là, entre guillemets, va se retrouver dans une projection de films muets à la salle de l'OSM, puis il sera accompagné par l'orgue, et il sera en fait dans une projection avec des films de Buster Keaton, Méliès, et ainsi de suite. Donc c'est des courts-métrages, des grands classiques du cinéma, mais avec de la musique live. Donc c'est assez cool, hein?
C'est vraiment un beau projet, là.
Fait que je présente un film vendredi, ça a été fait en express, là. J'ai été là toute la semaine, on a fait un genre d'hommage à Méliès, ça s'appelle L'aventure sur la calotte glaciaire, donc un hommage au voyage dans la lune.
Ouais. Ça, t'as dû triper, Rémi, il me semble, t'as tellement toujours trippé un peu sur le cinéma muet, puis...
Ben oui, c'est ça. Fait que c'est... J'avais dans ma liste de projets longtemps, tu sais, faire un film sur Méliès, puis à un moment donné, il y a eu Hugo... Puis j'ai fait comme, bon, ben, je vais enlever ça de ma liste de projets pour les prochaines années.
Bon, mais en tout cas, c'est vraiment un beau projet, puis bonne chance pour ça, Rémi. Je te souhaite d'être sélectionné. Peut-être, tu sais, d'avoir ton film aux côtés de Buster Keaton et Charlie Chaplin. Ça me rappelle, tu sais, il y a une couple d'années, quand il y avait les jaunes au Festival Cinéma de la Ville de Québec, puis il y avait comme une image pour présenter chaque catégorie. Puis là, t'avais genre les jaunes à côté du film de Godard, genre.
Oui, c'est vrai.
Puis là, j'étais comme, holy shit, t'as rendu compte, t'es à côté de Godard, là, tu sais.
C'est vraiment, c'est varié, hein, c'est varié, comme réclamation.
Ouais. Et sinon, c'est ça, l'autre chose que je voulais te dire, bien sûr, c'est que toi, Pascal, tu reviens de Slam Dance.
Oui.
C'est pas la première fois que tu y vas, t'as présenté déjà quelques films là-bas, c'est ta troisième fois, c'est ça?
Troisième fois, j'y suis allé en 2013, et l'année dernière, et cette année, c'est ça, avec des courts-métrages à chaque fois, et chaque année, en fait, j'ai réussi toujours à un peu me greffer à des gens qui sont aussi sélectionnés à Sundance, comme en 2013, c'était avec Sophie Goyette, l'année dernière, c'était avec mon ami Santiago Menghini, mon collègue Gami. Et cette année, c'était avec la cinéaste d'animation Alicia Tellingott qui avait un court-métrage d'animation programmé à Sundance.
Donc, Sundance et Slam Dance, c'est deux festivals qui ont lieu en même temps dans la même ville.
C'est ça. Slam Dance a été né un peu en... c'est comme un peu le penchant encore plus indie, encore plus DIY, encore plus punk un peu de Sundance. C'est quand Sundance, ils disent qu'il s'est un peu dénaturé, tu sais, qu'à la base c'était vraiment pour promouvoir le cinéma indépendant, puis que c'est dénaturé, ça a été victime de son succès, et de ces entrailles-là est né Slam Dance. Mais Slam Dance, en fait, est un festival quand même qui est très... c'est un petit festival quand même, parce que c'est... Park City, d'un, c'est une petite ville, c'est en Utah, mais vraiment, la population genre triple là, pendant Sundance, là, c'est vraiment énorme, l'impact de ce festival-là. Mais Sundance garde un côté familial à travers tout ça, mais c'est un festival justement qui, oui, les salles sont peut-être petites et tout ça, mais il y a un certain prestige, en guillemets, qui est associé à une sélection là-bas. Par exemple, un film qui gagne là... Ça peut être considéré pour les Academy Awards et tout ça. Il y a quand même beaucoup de presse présente. Donc, ça pour dire que c'est un festival quand même qui est très reconnu. C'est ça, j'y reviens. Ça a été une très, très belle expérience. J'ai pu voir beaucoup de films, beaucoup de courts-métrages. Vraiment, une trolley de courts-métrages. D'ailleurs, tu sais, là, au Centre Phi, le 8 février, si je ne m'abuse, il va avoir Danny Lennon programme, fait un programme, le Best of Sundance. Mm-hmm. Puis, il y a quelques films de Slam Dance qui se glissent au programme et il m'a fait confiance avec ces films-là. Donc, j'ai sélectionné les quelques cours j'ai préférés. Ouais. Donc, je veux pas les dire parce que si jamais, pour X raisons, les réalisateurs, ils donnent pas leur consentement et tout ça, en tout cas, Mais dans quelques jours, ça va être confirmé. Puis c'est moi qui vais les présenter aussi, les films. Donc,
ça, c'est vraiment nice.
Puis je sais qu'il y a un des courts-métrages que j'ai adoré, c'était mon coup de cœur. Bah tiens, je vais vous en donner un primeur. C'est un court-métrage qui s'appelle Richard Twice. C'est un court-métrage documentaire de 10 minutes. Puis là, le réalisateur, lui, il va venir à Montréal, d'ailleurs, justement, après le présenter. Il vient de New York, donc il va faire la route et venir. C'est un super bon short, là. En 10 minutes, ça fait quasiment ce que Searching for Sugar Man fait en 2 heures, OK? Richard Twice, c'est quoi? C'est un documentaire animé sur un musicien qui faisait du folk psychédélique à la fin des années 60. Il a fait seulement un album à 19 ans, puis après ça, il a disparu de la scène musicale complètement. Puis le documentaire, en fait, retrouve l'album, retrouve le gars, puis il le sort un peu de sa réclusion. Réclusion, c'est un mot? Oui. Bon, solitude. Mais vraiment, genre, en 10 minutes, là, c'est hallucinant comment c'est bref, c'est concis, c'est fort, c'est touchant, la musique est bonne. Moi, c'est le meilleur short que j'ai vu là-bas. Oui. Et j'aurai l'honneur de le présenter au Centre Phi. Donc, assurez-vous de regarder ça. Et il y aura d'autres surprises. Donc, ça, c'est pour les courts-métrages.
Ouais. Non. Puis d'ailleurs, toi, ton court-métrage, Nona, est-ce que tu me parles un peu de la projection? Ça s'est bien passé?
Oui,
les commentaires? Ouais.
Oui, c'est ça. Ça jouait à Sundance. Tous les shorts sont présentés avant des longs. Et il y a aussi trois programmes des programmes de shorts. En fait, plus que trois, parce que c'est trois programmes de fiction. Il y a un programme d'animation, un programme documentaire, mais bon. Mais les films de fiction, c'est ça. Sinon, ils sont greffés au long-métrage de fiction. Et le mien était greffé avec un long métrage allemand qui s'intitule Beat Beat Heart, d'une réalisatrice qui s'appelle Louise Berkman. L'affaire avec Slam Dance, c'est que la compétition, c'est pour des premiers films. Donc, c'est des cinéastes qui, a priori, sont pas connus. Tu sais. Mais c'est le festival, comme mettons Christopher Nolan, son premier film, il avait été à Slam Dance. Ben Zeitlin, son premier film, était à Slam Dance. En tout cas, il y en a d'autres. Là, ils ont des alumni quand même assez intéressants. Et mais il y a une section Beyond qui est une section où ils peuvent prendre des deuxième, troisième films, mais qui ne sont pas en compétition, ceux-là. J'ai une chose à dire. Je me suis jamais senti aussi nationaliste que ça, les amis. Et c'est peut-être pas une bonne chose. Ou une bonne chose, je sais pas. On restait dans une maison qui était louée par des producteurs canadiens d'Alberta. Et il y avait pas moins de 4 longs métrages de Toronto à Slam Dance. Il y avait 4 films canadiens anglais. Puis sachant que en 2013, c'est là que j'avais découvert
Matt Johnson.
Matt Johnson, ouais, c'est ça, The Dirties, Matt Johnson. Mm-hmm. Et là, cette année, ça a explosé. Et franchement, des 4, là, j'oserais dire que c'est vraiment du bon stock, là. Moi, mon favori de ces 4-là, si je peux en mentionner juste un, attends un peu, non. Déjà, celui qui a gagné le grand prix du long métrage de fiction, c'est un film canadien. Ça s'intitule Dim the Fluorescence. Donc, un premier film d'un nouveau cinéaste, là. Il s'appelle Daniel Worth. Mais celui-là, pour mal faire, c'est le seul des 4 que j'ai pas vu. Donc, je pourrais pas le commenter. Les 3 autres longs métrages canadiens, c'est un film qui s'appelle Withdrawn de Adrian Murray. Un film qui s'intitule Suck It Up d'une réalisatrice qui s'appelle Jordan Canning. Et celui dont je veux parler un peu plus, parce que c'est peut-être mon favori de tous les films de fiction que j'ai vu à Slam Dance, carrément. Et c'est un film de Toronto. Ça s'appelle Wexford Plaza de Joyce Wong, une réalisatrice asiatique de là-bas. Puis c'est un film, justement, parlons de diversité, mais sous une belle loupe. C'est un film qui met en scène une jeune femme qui fait de l'embonpoint, là, disons ça comme ça, en étant poli. C'est pas un problème, c'est ça qui est génial dans le film. C'est jamais appuyé, c'est jamais représenté d'une façon. Mais juste pour dire que c'est un body type pour une actrice dans un rôle principal qui est quand même atypique, on va se le dire. Surtout dans une petite juste piece. Quand c'est pas Melissa McCarthy ou juste comme pour être un peu à la blague, là. Mm-hmm. C'est plate, mais c'est ça, un petit peu. Puis là, non, un rôle super digne. C'est une comédie de film, mais c'est pas à propos de elle qui est un peu je sais pas, bouffonne. C'est pas du tout de là que la comédie émerge. Donc déjà là, moi j'ai toujours été un grand fan de quand les films prennent des causes un peu sur leurs épaules, mais sans l'appuyer. Mais ça, c'est un bon exemple. Et il y a un Love Interest qui est un Asiatique aussi. Et c'est intéressant parce que c'est un personnage mâle asiatique, mais il est un peu comme Tug. C'est un gars un peu... bon, il est un petit peu loser, là, tu me diras, mais dans le film. Mais c'est un personnage asiatique qu'on voit rarement, je trouve, au cinéma. Puis on dirait que c'est vraiment pas forcé, c'est super naturel. Puis en gros, c'est quoi l'histoire? C'est ça, on suit ces deux. Il y a comme une genre de relation entre les deux qui crée beaucoup, vraiment des gros quiproquos. Puis le film prend les deux points de vue en parallèle. Puis il y a même un flashback, l'histoire reprend d'un autre point de vue pour montrer un peu l'incommunicabilité entre les jeunes et c'est ça. Bon, bref, de façon très très vaste, là, c'est de ça que le film traite. Mais un film qui est fait avec très peu de moyens, mais qui cache son manque de moyens par un savoir-faire technique hallucinant. La photo est magnifique. J'étais sûr que c'était shooté genre en Alexa, puis la directrice photo était sur place, puis ils m'ont dit qu'ils ont, pour ceux qui connaissent un peu les caméras, ils ont tourné le film en C100. Tu sais, une C100, c'est pas...
C'est un truc de base, en fait.
C'est mieux que la...
C'est le début du haut de gamme.
C'est ça, c'est mieux que la 5D, mais pas tant, là, entre guillemets. Puis genre, le film, c'est souvent tourné de nuit, dans un centre d'achat, c'est une agence de sécurité, fait que c'est de nuit beaucoup. Genre, ça cache son manque de moyens par juste comme un contrôle technique qui est hallucinant. Non, moi, j'ai vraiment que du bon à dire sur ce film-là. Et un film canadien, les amis. Donc, parlons de Go Canada Go. Et il y a un film, je clôturerai mon épopée Slam Dance par un seul film. Et parce que quand même, les deux meilleurs films que j'ai vus, je te dirais que c'est même peut-être les trois meilleurs films que j'ai vus, c'est peut-être trois longs-métrages documentaires. J'ai trouvé que le programme documentaire était particulièrement fort. Mais il y a un film qui a détruit la compétition. Et quand je dis détruit, je pèse pas mes mots. Ça va être probablement un des meilleurs docs que je vais avoir de l'année, là, c'est à ce point. Ça s'intitule Strad Style, et c'est le film qui a gagné le prix et du public et du jury pour le long-métrage documentaire. Donc, un film qui rallie quand même un peu toutes les sensibilités. C'est hallucinant, cette histoire-là, les gars, OK? C'est l'histoire d'un dude, vraiment un dude, là, de l'Ohio, qui vit dans... super pauvre, dans une maison pas chauffée, puis comme il est pas allé à l'école, puis... Il a comme appris lui-même de façon autodidacte à faire des violons, à construire des violons. Et puis là, lui, sa seule fenêtre sur le monde, c'est pas mal Facebook. Donc là, il se lie d'amitié sur Facebook avec un des meilleurs violonistes au monde. Demain. Non, puis là, le violoniste, il est comme, en gros, de fil en aiguille, il dit à l'autre, ah oui, je serais capable de faire une réplique de Il Canone. Il Canone, là, c'est genre, c'est comme un violon mythique. C'est le violon que Paganini utilisait. Puis, tu sais, c'est le nec plus ultra du violon, OK? Puis là, il s'embourbe un peu dans un genre de semi-mensonge parce que là, il dit à l'autre, ouais, je peux te le faire pour ta tournée Paganini l'été prochain, tu sais. Mais là, un genre de deadline impossible, puis ça prend un savoir-faire impossible. Puis là, l'étau se resserre sur ce gars-là, et je vous en dirai pas tellement plus, mais le film est hallucinant. Puis un documentaire, ce que ça a toujours dans un contexte de festival qu'un film de fiction n'aura pas. Tu sais, un film de fiction, tu vas, mettons que tu as trouvé les acteurs bons et beaux, tu vas les voir, tu vas applaudir, tu vas être en émoi. Mais quand un film traite sur un protagoniste qui est plus grand que nature, que tu as l'impression que tu as pris une tranche de sa vie, que tu te l'es approprié, puis que là, la vraie personne vient devant toi à la fin du film, c'était l'ovation debout, le film a ému tout le monde, toutes les émotions passent, la tension dans comment il faut qu'il crée son violon et à découper au couteau, littéralement en fait, parce que c'est ça, c'est à coup de couteau, de marteau, puis d'étau là, qui essaye de faire ce violon-là. Donc, une histoire qui est quand même surprenante, tu sais, je me serais... Mais croyez le hype, là, c'est vraiment une magnifique pièce. Le cœur est à la bonne place. C'est magnifique, magnifique, magnifique. J'ai menti. Oui, vas-y, hein? Paul. Oui.
Non, non, mais c'est bien que t'en parles. Parce que j'en avais pas entendu parler. Bon, évidemment, j'étais pas au festival. Mais j'essaie toujours de suivre un peu les échos sur Twitter, notamment parmi les critiques que je suis. Puis c'est pas un des films qui avait été mentionné, donc je suis content que tu le...
Ben, c'est ça. Ben, tu sais, c'est le premier film, un doc. Le sujet est peut-être pas le plus alléchant, mais vraiment, ça a complètement... ben, comme je disais, là, en ce qui me concerne, pulvériser la compétition, puis visiblement aussi avec les prix qu'il y a eu. Donc, ça, c'est Strad Style. Mais je veux juste finir sur une affaire, OK? Le moment le plus what the fuck de tout mon festival. si je vous dis le nom Mark Borchard, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Non.
C'est qui déjà, ça?
Rémi, ça te dit quelque chose, ça, Mark Borchard? C'est le réalisateur dans American Movie.
Ben oui, c'est ça! Oh. C'est ça, j'étais pas sûr, mais oui!
OK, bon, Mark Borchard...
Étais-tu là?
Attends, man, OK? C'est la meilleure chose.
Wow.
Dans le programme Documentary Shorts, il y a un film qui s'intitule The Dundee Project, director Mark Borchard. Et c'est un documentaire de 20 minutes sur une petite ville puis des gens qui sont ben gros dans les UFO, là, tu sais, dans les ovnis, puis qui capotent là-dessus, puis bon... Le documentaire, moi j'étais là à la projection, tout le monde riait, OK, tout le temps. Jusqu'à ce que je pense que tu te rendais compte que c'était pas censé être drôle. Puis là, Mark Borchard, moi je m'en suis pas rendu compte, mais c'est à un moment donné dans le film, on le voit parce qu'il se met un peu en scène dans le film. Puis là, je fais, hey man, je suis en train vraiment de regarder un documentaire en première mondiale du gars qui est le protagoniste du documentaire. American Movie.
Oh my god.
American Movie, pour ceux qui savent pas, c'est savoureux, ce documentaire-là. C'est sur
un genre de film préféré à la vie.
C'est ça, un genre de Ed Wood des temps modernes, mais genre, tu sais, qui vient d'un endroit où il manque d'éducation, mais une passion juste de faire des films et tout ça. Bon.
Ben, puis alcoolique, il y a des problèmes avec son ex-femme, son oncle, son vieillon qui habite dans un trailer park, là, ça va pas la vie, mais il veut faire son film d'horreur. C'est son rêve ultime.
C'est ça.
Puis il tourne ça avec ses amis, mais il a pas les moyens, les ressources autour de lui.
Ben exactement, right? Mais là, il y a un documentaire de Mark Borchard en compétition avec les documentaires. Et puis là, le film commence, toutes les cotes sont en fondu, enchaînées, puis il y a comme des fade to black, oh vraiment maladroit, puis il y a comme une voix off vraiment trop écrite. Puis là, tout le monde riait. Et puis là, il se pointe au Q&A. Parce qu'à Slamdance, ça, c'est génial et j'adore ça. C'est les questions-réponses sont entre chaque film dans un programme de court-métrage. Donc, cool. Le film finit, si le réalisateur est là, les lumières ouvrent, le réalisateur vient en avant, un petit Q&A et on reprend le programme. Donc, ça, moi, je trouve ça le fun parce que, tu sais, à la fin d'un programme de court, des fois, les films, tu te rappelles plus qui a fait quoi, puis bon.
Puis t'es moins dans le spontané, dans tu viens de le vivre. Là,
c'est ça. Mais là, c'est le premier film du programme de short, de doc. Il se pointe en avant, et puis là, vraiment, moi, j'ai compris que c'est vraiment le gars d'American Movie. Puis quand tu vois American Movie, tu te rends compte que t'es pas vraiment censé rire de lui, mais tu ris quand même, mais t'es pas censé. Et puis là, tout le monde a ri pendant tout le long du film, puis il était pas censé. Puis c'était un Q&A tellement awkward, là. Genre, je peux même pas vous... C'est dans les annales, c'est impossible de faire un question-réponse plus bizarroïde que ce que j'ai vu, OK? Puis à Mané...
J'aurais tellement aimé ça,
man,
mon
je te jure, là, j'espère que ça n'a pas été filmé, mais en tout cas... Puis là, il y a quelqu'un qui pose une question. Il dit, comment tu te sens d'être la personne derrière la caméra alors que... Et trois petits points. Mark Borchard coupe la personne qui pose la question. Il dit genre, I know where you're going and I'm not answering this shitty question. It's a shitty question and I'm not answering it. Puis là, genre, c'est vraiment, vraiment weird, là. Puis là, comme... OK. Là, c'est...
Il était comme agressif.
Ouais,
il était...
agressif, sauté, bizarre. Man,
ouais, c'est un gars weirdo de base. Ouais, non, mais,
mais là, genre weirdo, dangereux. Tu sais, c'était vraiment bizarre.
En même temps, ça soulève une bonne question au niveau éthique du festival. Parce que est-ce qu'ils l'ont invité sachant pertinemment qu'il allait faire rire de lui? Puis tu sais, comme, est-ce que... C'est ça, fait que je suis un peu mal à l'aise face à ça, non?
C'est ça, je sais pas. Mais c'est parce que le film, il est drôle, tu sais. C'est un So Bad That It's Good avec quand même un sujet intéressant. Puis tu sais, c'est drôle, fait que tu te dis... Si tu penses que c'est du deuxième degré, en fait, c'est bon, mais... comme ouais. Mais c'est
curieux. En même temps, lui, il a soumis son film au festival. Fait que
c'est ça.
C'est pas comme si tu le forçais à être là. Puis...
Mais
disons... Ouais, mais il doit pas comprendre la game, là. C'est comme, tu sais...
Ouais.
C'est sûr que le gars, il est ailleurs, là. Tu sais, puis justement, American Movie, pour lui, ça y a peut-être fait du mal. Parce que, ben, tu sais...
Ouais.
Parce que finalement, il sait un peu ce que ça a donné le film.
Ouais.
Le portrait qui a été dépeint, puis les gens qui en ont parlé après, tu sais... Autant que ça l'a monté au succès, autant que ça, tu sais, ça l'a sorti de l'ombre, mais en même temps, c'est peut-être pas de la façon qu'il voulait, tu sais.
C'est ça, c'est ça. Mais
il est juste associé à ça, tu sais.
Mais je suis d'accord avec toi, Paul. Disons que s'ils l'ont invité un peu, quote-unquote pour rire, ben, on dirait que la joke s'est revirée contre eux. Parce que ce Q&A-là était vraiment bizarre. Donc voilà, c'était vraiment ça, c'était le gros what the fuck de mon festival. Et sur ce, drop the mic, c'était mon slam dance en condensé.
Puis est-ce que tu as été voir un peu des films à Sundance aussi?
Ou... Des programmes de short seulement, j'ai pas pu voir de, j'ai pas vu de long. Programme d'animation, entre autres, comme je disais, avec le film de Alicia Tenenga. Et dans le même programme, il y avait le court-métrage d'animation qui a gagné finalement le prix de Sundance. C'est un court-métrage d'animation allemand sur... c'est juste des entrevues audio sur des images animées de prison. Puis c'est sur des gens qui sont forcés. C'est sur le forced labor en Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Fait que c'est tous des témoignages de gens qui ont été complètement exploités puis brisés dans le système carcéral vraiment extrême de l'Allemagne de l'Est. Et le film montre aussi l'hypocrisie parce que finalement, ce qui est fait dans les prisons socialistes sont vendus aux pays capitalistes ou sont vendus même en Allemagne de l'Ouest. Fait, en tout cas, le film soulève quand même une grosse question. Puis ça c'est un très très bon film. Puis ça semblait, mais j'ai pas tout vu les films d'animation. Je pense que, c'était, de ce que j'ai vu, c'était très mérité. Fait que Sundance, ça a été un court-métrage pour moi.
Un film que j'ai hâte de voir, dont les échos sont très très bons en ce moment, c'est le nouveau film de David Lowery, qui avait fait Ain't Nobody Saints, et puis également Pete's Dragon, qui avait eu un peu moins un bon accueil. Ouais. Et puis son film, je pense, s'appelle A Ghost Story, ou quelque chose comme ça.
Ouais, c'est ça. Ça a été beaucoup jasé. Mais cette année à Sundance, et depuis l'année passée, je te dirais, depuis que Netflix et Amazon sont dans la bidding war un peu, là, les films sont acquis pour beaucoup plus cher. Il y avait vraiment eu une grosse drop avant l'année dernière, je te dirais. Mais là, il y a eu des deals, 10 millions, 11 millions, 12 millions. Là, juste aujourd'hui, j'ai vu, c'est un peu post-festival, mais il y a un film qui était acquis à 12 millions et demi. Ça, là, il y a comme 3-4 ans, ça arrivait tellement pas. Puis ça, on peut directement associer ça à l'arrivée en scène de Amazon et de Netflix. Qui acquiert, surtout pour les docs, là, Netflix, ils ont acquis des docs à gros prix. Genre, tu sais, il y a 5 ans, t'avais un film à Sundance, un doc, si t'avais 2-3 millions pour, c'était comme du popel champagne. Là, donc, c'est particulier le climat là-bas depuis quelques années, je pense. Il y a beaucoup de demandes dans le indie, puis Netflix, puis tout, ça a tout changé. Là. On le voit vraiment. Ouais.
Ben, tant mieux, plus d'argent pour les créateurs.
Dans un sens,
Ouais. Sinon, nous, évidemment, on a vu énormément de films depuis un mois et demi, chacun étant aussi cinéphile que nous sommes. Puis moi, je vais vous parler rapidement de deux films que j'ai vus récents. Je pourrais parler de certains films que j'ai vus, qu'on a déjà parlé au podcast, mais j'aime mieux me concentrer sur des trucs inédits.
Oui.
Donc, pour commencer, je vais prendre le film le plus décevant des deux, qui s'appelle The Founder.
Tu l'as vu?
T'es allé voir ça?
Ouais, j'avais vraiment hâte. En fait, c'était vraiment comme un de mes films les plus attendus de l'année. Parce que je trouvais l'histoire...
Tu sais qu'à chaque fois que tu dis ça, t'es déçu, Paul, hein?
Ben, pas à chaque fois, mais...
Godzilla, Suicide Squad...
Mais comment tu peux avoir des attentes du réalisateur de The Blind Side? C'est ça que je veux comprendre.
Ben, tu vois, je savais pas que c'était ce réalisateur-là avant de rentrer dans la salle. Puis j'ai pas vu The Blind Side, donc... Moi, c'est vraiment, dans le fond, l'histoire qui me captivait, la prémisse. Puis Michael Keaton en rôle principal, je me dis, why not? Ils sont venus lancer en ce moment. Donc c'est ça. Fait que j'allais voir The Founder, qui, on le rappelle, c'est l'histoire de Rick Rock, qui est un entrepreneur dans les années 50, et puis... Il va... tu sais, lui, dans le fond, il fait la vente un peu dans des restaurants. Au début du film, il vend des machines à milkshake. Puis c'est une espèce de self-made man, là, avec... tu sais, il met sa cravate, son complet, puis il va dans les restaurants, il fait son pitch. Puis tu sais, il essaie de, comme, ramasser un petit peu d'argent. Hein, puis là, après ça, il fait la route, puis va ailleurs. Et il tombe sur un petit restaurant local que le service est très rapide, puis la bouffe très bonne. Qui s'appelle McDonald, fondé par les deux frères, donc McDonald. Et il dit, tu sais, puis dans le fond, il va se joindre à eux assez rapidement pour leur dire, vous devez absolument vous franchiser, vous avez là un concept incroyable. Parce que, tu sais, dans le fond, l'industrie du fast-food, un peu, ça n'existait pas à cette époque-là. Tu sais, c'était service aux autos, avec, tu sais, les gens en patin, puis c'était long, tout ça. Donc là, lui, il a vu un peu, il a vu le potentiel de ça. Et rapidement, dans le fond, c'est qu'il va prendre le pouvoir des mains des frères McDonald, alors qu'il n'a rien inventé. Dans le fond, il a juste comme flairé la bonne affaire. Puis eux, c'est vraiment comme c'est des bons chrétiens qui veulent pas trop, à chaque fois, ils veulent avoir le contrôle sur la qualité, ils sont pas trop d'accord d'ouvrir trop de restaurants rapidement. Puis lui, il signe des chèques à gauche puis à droite, puis let's go, on construit des nouveaux restaurants, peu importe. Donc, c'est un peu ça le conflit principal du film. Mais, puis c'est ça, puis il y a tellement un potentiel, je trouve, dans cette histoire-là. Pour moi, ça aurait pu être. Puis le film se veut un peu une espèce de, tu sais, une copie des films un peu, là, tu sais, de David Fincher, là, comme de Social Network.
Ouais, c'est ça. Parce que je voyais, je m'attends à un Social Network, mais j'ai lu un peu les critiques, puis il paraît que c'est pas du tout ça.
Là. Ouais, c'est ça, ce style de film-là, tu sais, le même scénario, là, dans les mains de David Fincher, là, ça pourrait faire un vraiment bon film, là, tu sais, captivant. Mais le problème, c'est que, déjà, le film nous apprend pas vraiment grand-chose, parce que, tu sais, les grandes lignes, même s'il nous apprend les choses, tu sais, c'est un peu ce qu'on s'attend, tu sais. On s'attend à quelqu'un qui a la pote du gain facile, tu sais, qui se pose plus ou moins des questions sur ce qu'il est en train de faire, puis qui veut, il voit grandir l'Empire, tu sais, c'est le schéma classique. Et, en dehors de, tu sais, Michael Keaton, qui a l'air d'avoir bien du fun, tous les personnages secondaires, là, c'est vraiment... C'est uniquement des rôles. C'est uniquement des fonctions. T'as la femme qui est là, puis qui est juste là pour rappeler au mari qu'il prend pas de temps pour elle. T'as les deux frères McDonald, t'sais, les deux sont un peu comme des comic relief, là, t'sais, comme sont un peu trop gentils, puis trop naïfs. T'as son associé, là, qui va devenir important, mais qui est vraiment juste là pour le supporter.
Ouais.
Fait que finalement, c'est vraiment un bon show-off pour Michael Keaton, mais le reste du casting est sous-développé, sous-écrit. Puis en plus de ça, les effets de montage, puis les effets de mise en scène, genre, tombent à l'eau constamment.
Si bien
que des gros moments dramatiques qui devraient être dramatiques sont risibles. Il y a un moment là où il va à la banque, puis là, il se fait refuser un prêt, puis là, il cogne sa table, puis il est comme « You cannot do this to me! » Puis là, c'est juste comme, au lieu d'avoir un long silence, puis tu sais, mettons, les figurants se retournent, puis là, comme, tu sais, il t'appuie avec un point d'exclamation ton plan, là. Mais tu sais, il y a comme tout le temps de musique qui est là, qui barbouille tout le film, puis tu transitionnes rapidement à la scène d'après comme s'il n'y avait pas eu vraiment d'impact. Fait que ça en fait un film qui est vraiment décevant, puis qui est, c'est vraiment comme, c'est mal foutu, là. C'est une mauvaise job de montage. Puis en plus, la musique, c'est... Carter, le gars qui a fait la musique de Carole, là.
Burwell.
Et puis, j'ai vu ça, son nom générique, puis j'étais vraiment surpris, parce que c'est quand même un compositeur, tu sais, qui est talentueux. Mais la musique est mal utilisée dans le film. C'est comme quelqu'un qui a des bons ingrédients, puis qui sait pas quoi faire avec, puis qui met ça un peu n'importe comment.
Tu sais, il y a un travail à faire entre les compositeurs puis les réalisateurs, puis des fois, il y a juste pas cette chimie-là qui opère, puis ça finit que la musique est plaquée, il y a pas de symbiose entre la musique puis l'image, puis c'est juste, bon, ben, c'est une gig, je vais remplir un contrat, puis c'est
réglé, là. Puis, le problème numéro un, excuse-moi Rémi, mais le problème numéro un, vraiment, d'un film comme The Blind Side, par exemple, c'était beaucoup trop sentimental, là. La musique mièvre, là, tu sais, qui essaye de tirer un peu d'émotion dans un film qui, tu sais, autrement, je veux dire, il y a quelque chose, est-ce que dans The Founder, tu sembles dire justement que la musique barbouille le film, même tu as utilisé ce terme-là, mais tu sais, est-ce que même, tu sens que tu essayes d'être manipulé, que c'est sentimental, ou...
Ben, moins parce que le film, ça se veut pas un drame inspirant de quelqu'un qui a surmonté des problèmes. T'sais, c'est vraiment plus comme une comédie acerbe sur genre le capitalisme, tout ça. Mais le film prend pas vraiment de position non plus. T'sais, c'est un film qui devrait être acerbe, mais finalement qui est très doux envers tout le monde. Donc, les personnages n'ont pas vraiment de conséquences et ne grandissent pas tellement non plus. T'sais. Puis là, ensuite, t'as quelques images d'archives pendant le générique. T'sais, là, tu vois le vrai Rick Rock. Puis là, tu vois un petit bout d'entrevue, tout ça. Mais tu t'en fous, finalement. Puis alors que c'est ça qui est fascinant, c'est que McDonald's, c'est vraiment une icône américaine. C'est vraiment tu sais, ça fait partie de l'histoire avec un grand H. Donc, il y aurait eu matière à faire de quoi de dramatique. Puis le film n'a pas été fait encore sur McDonald's. Donc, T'sais, le bon film sur McDonald n'a pas été fait. Donc, t'sais, éventuellement, est-ce que quelqu'un d'autre s'attaquera à la tâche, ça pourrait être sûrement plus intéressant. Et peut-être aussi se concentrer sur des moments plus t'sais, restreints. C'est peut-être ça le problème, parce que le film, t'sais, ça se passe sur des années, puis ça va très, très vite. Là. T'sais, c'est quasiment comme une espèce de présentation PowerPoint. Là. T'sais, OK, là, on a la scène, on passe à l'autre, on passe à l'autre. T'sais, alors que justement, est-ce que David Fincher et puis
Steve Jobs là un peu aussi, c'est un peu le même
qui fait bien, c'est ça, c'est de choisir des moments clés. T'sais, un drame, c'est ça, c'est, tu peux pas comme résumer la vie de quelqu'un puis la vie d'une entreprise comme McDonald's en deux heures. Donc où est ton drame? Il faut que tu trouves le drame dans le film.
Ouais, puis c'est le piège dans lequel Social Network aurait pu facilement tomber, parce que Social Network, de base, la prémisse, c'est ça mène pas un bon film. C'est juste que dans les mains d'un réalisateur comme Fincher, avec le montage, la musique, avec le travail qu'il y avait autour, le film prend une autre coche, parce que de base, Facebook Movie, là, c'est comme, tu sais, essaie de résumer ça, ça a l'air plate, là, il n'y a pas tant de choses à dire, tu sais, tu peux résumer ça sur un article Wikipédia, tu sais, ça se fait vite, mais finalement, c'est tellement bien fait, fait avec goût que...
Ben, en même temps, c'est fascinant, c'est...
quoi raconter. Ouais.
Ouais. Mais c'est fascinant, ces compagnies-là qui sont comme, tu sais, des multinationales incroyables, tu sais, donc c'est sûr que tout, je trouve que de base, ces projets-là ont beaucoup de potentiel, mais The Founder, là, réellement, gâche tout ça. Sinon, par contre, film que je suis beaucoup plus enthousiaste, c'est Split de M. Night Shyamalan.
Split! J'ai hâte de voir ça.
M. Night Shyamalan, que j'avais vraiment délaissé là, comme depuis plusieurs films.
Comme tout le monde, là, je pense pas que.
Ouais, un peu.
Je pense plus que le monde suive. Il y a beaucoup d'ambiguïté sur Sing et The Village. Là.
Ouais.
Tu sais, il y a des gens qui défendent ces deux-là. Mm. Mais c'est pas des méga bons films. Ouais, c'est des films qui fonctionnent.
Mais même si tu défends ces deux-là, il y a tellement de navets qui ont suivi que.
Il y a Burning, Lady in the Water, Last Airbender, After Earth.
Même si à The Village, t'es encore abonné à Shyamalan, je pense pas qu'il y a grand monde qui est resté.
Mais après, t'en as 4 pour te.
Mais peut-être que la meilleure chose qui peut y arriver, justement, c'est d'avoir quelques flops, peut-être, pour lui permettre, en fait, de. Peut-être retrouver le goût à des projets, et notamment ce qu'il fait depuis quelques films, c'est qu'il fait des projets à micro-budget.
The Visit, je sais que on en a parlé un peu, Paul, mais je sais que tu l'as pas vu, mais c'est quand même cool. Hein. C'est une belle surprise. La bande-annonce m'avait attiré la curiosité comparativement à ces derniers films où je commençais à juste plus du tout avoir envie de les voir. Puis ça remplit parfaitement son mandat. C'est un série B qui se prend pas au sérieux, avec des belles scènes de tension, c'est drôle. Il y a son petit twist ending, là, mais qui fonctionne dans le contexte du film. Puis c'est un found footage, ben comme un found footage, c'est tout en caméra subjective, mais c'est assumé fiction. T'sais, il essaie pas de nous faire croire que c'est une histoire vraie, là, c'est juste un device pour raconter l'histoire. Puis vraiment, là, moi je le conseille... tu sais, ceux qui aiment films d'horreur, il faut vraiment aimer le genre, là, mais ça marche. Là, c'est deux enfants avec leurs grands-parents qui virent fous dans la maison la nuit. Là, il faut qu'ils restent enfermés, sinon les grands-parents peuvent faire des trucs freako.
Mm-hmm.
Ouais.
Et
Split, je suis curieux.
Et ça, The Visit ainsi que Split, c'est deux films qui ont été produits par Jason Blum de Blumhouse Productions, qui est vraiment comme une compagnie en ce moment là, qui règne un peu sur le monde de l'indépendant aux États-Unis, surtout dans le film d'horreur. C'est eux notamment qui ont lancé la franchise de Purge. Puis je pense également de Conjuring, mais je pourrais me tromper pour celui-là. Et c'est ça, Jason Blum, c'est que lui, il donne carte blanche à ses cinéastes tant qu'ils restent dans leur budget. Puis souvent, les budgets, c'est comme 5 millions, pas plus, quelque chose comme ça. Qui rappelle un peu, finalement, le modus operandi d'un Roger Corman, par exemple.
Ouais, c'est ça.
À notre époque. Et ça permet vraiment des prises de risques. Puis c'est ça, je pense, que ça prenait à un M. Night Shyamalan, t'sais, lui dire... Parce que, tu sais, c'est ça, c'est quand tu fais des productions de comme 150 millions de dollars avec Will Smith ou des trucs comme ça, Mel Gibson, tu sais, c'est sûr que tu peux plus avoir autant peut-être de contrôle, puis il y a peut-être une pression qui devient néfaste. Puis visiblement, tu sais, là, il a repris goût à faire des... Tu le sens, ça se sent ça dans des films, mm-hmm. que la personne aux commandes, là, est vraiment heureuse, puis elle a vraiment, tu sais, le cœur à l'ouvrage, puis les limitations, ça permet des fois aussi la créativité.
Ah, puis After Earth, en fait, son nom, il avait été complètement enlevé des promos. Hein.
Ouais, c'est ça.
Pas, tu sais, habituellement, c'était du créateur du sixième sens. Ouais. Tu sais, il collait toujours ça. Puis After Earth, ils ont rien dit. C'était vraiment un film de Will Smith, produit par Will Smith, avec le fils de Will Smith. Puis ouais. C'était... Il n'y avait pas aucune mention. Le poster, il n'y avait pas le nom de Shyamalan dessus. Mm. C'est comme... C'était rendu qu'il ne pouvait même plus dire le nom. Là. C'était le nom maudit un peu. Là.
Non, c'est ça. Donc, Split, qu'est-ce que c'est? C'est un thriller qui rappelle grandement 10 Cloverfield Lane. Donc, une histoire de kidnapping. Huis clos un peu dans une maison. Et le personnage principal, c'est James McAvoy. Qui joue un dérangé, visiblement, qui kidnappe trois filles au début du film. Il n'y a aucun punch dedans, c'est la première scène. Cet homme-là souffre de DID, de trouble de la personnalité. Donc, il a 23 personnalités différentes. Évidemment, pour un acteur, c'est un rôle sur un plateau d'argent. Ça lui permet vraiment de s'éclater. Il y a une personnalité, c'est une espèce de designer de mode. Une autre personnalité, c'est une femme très douce. Une autre personnalité, c'est une espèce de père de famille très strict et très, très costaud. Un autre, c'est un enfant de 9 ans. Fait qu'une grande partie du plaisir du film, c'est vraiment, tu sais, justement, un espèce, c'est quasiment un demo reel, tu sais, comme pour l'acteur. Là. Mais c'est vraiment ça, avec ça, James McAvoy. Si bien que, tu sais, que les actrices dans le film puis les personnages secondaires sont un peu mis de côté puis effacés. Et contrairement à 10 Cloverfield Lane, c'est que peut-être que Split tombe plus dans les pièges du film d'horreur conventionnel où t'as les personnages qui font des décisions un peu ridicules parce que le scénario doit les amener là, tu sais. Alors que 10 Cloverfield Lane, quand même, tu sais, la personnage principale était vraiment pleine de ressources, puis dès le départ, tu sais, elle essayait toujours de s'échapper, puis de, tu sais, donc ça faisait changement. Donc déjà là un petit bémol pour Split, mais cependant Split. Puis ça, c'est le problème de ce film, c'est qu'on peut pas vraiment parler sans que tout le monde l'ait vu. Mais il y a, et bon, c'est pas comme si c'était la première fois dans un film de M. Night Shyamalan, mais il y a un certain twist dans le film. Et vraiment, ce film-là, le twist du film, c'est une scène post-générique. Là, c'est vraiment comme à toute fin. Mais ce twist-là est tellement fort que ça recontextualise tout le film.
Post-générique. Post-générique.
Ouais, c'est post... Ben, en fait, il y a comme... Tu sais, comme des fois Marvel, ils font une scène après, bon, t'as genre deux, trois
intertitres. Ah, les premiers panneaux.
Là, t'as une scène.
Avant le générique déroulant, mais après, genre les premiers panneaux.
C'est ça, après que le titre apparaît.
C'est tellement drôle de choix.
Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, la scène juste après, tu sais, le carton titre final. Et c'est ça, ça vient recontextualiser tout le film. Puis ça revient complètement comme repenser comment tu penses le film. Genre, ça devient comme. Puis je peux pas en parler sans le dévoiler, c'est ça qui est génial.
C'est comme c'est un truc, ce n'était qu'un rêve.
Ben, je veux pas le dire c'est quoi, parce que c'est honnêtement là.
C'est une blague, pas, je l'ai pas vu.
Mais non, ça, mais je veux vraiment pas en dire, parce que moi je me suis laissé prendre, puis je suis content de m'être laissé prendre au jeu. Ça fait du bien, tu sais, surtout que comme nous, forcément en étant critique puis étant cinéphile, on va voir les bandes annonces, on sait un peu ce qui se passe. Puis là, celui-là, j'avais pas trop entendu parler, juste un podcast que j'écoutais qui avait dit c'est vraiment bon, allez le voir. Fait que je suis allé le voir avec mes amis. Par contre, tu vois, le twist, il a fallu que je l'explique à mes deux amis qui ça leur est passé par-dessus la tête, puis il était un peu confus. Donc, c'est un twist que c'est pas tout le monde qui va comprendre, mais c'est normal en même temps. Mais j'essaie de rester vague, là.
Ouais.
J'essaie de rester vague.
C'est vague, mais c'est mystérieux. Hein. Ça me donne quasiment envie de le voir.
Mais honnêtement, vous irez le voir. Puis je pense que vous deux allez être satisfait un peu de ce qu'il a réussi à faire. Ensuite, ça n'empêche pas que le film, c'est pas non plus un film génial. Puis dans la même veine, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, je préfère un 10 Cloverfield Lane. T'sais, dans la forme thriller, un peu huis clos, tout ça. Mais honnêtement, ça me donne le goût de comme justement aller voir Visite, peut-être revisiter les films de Shyamalan, surtout ceux que j'ai pas vus. Donc non, c'est bien. Puis ça m'a fait penser, puis on en parlait avec Rémi l'autre jour. Tu sais, ces cinéastes-là qu'on souhaiterait tellement qu'il y ait une espèce de drop comme ça, puis qu'ils fassent des films à 5 millions pour Blumhouse Pictures, tu sais, puis on parlait de... Moi, je disais justement, il y avait Tim Burton, mettons, j'aimerais donc ça qu'il fasse un film à 5 millions, tu sais, un petit film d'horreur, quelque chose comme ça. Ou même un Spielberg, tu sais, j'aimerais ça qu'il fasse un petit thriller à la Duel, ou...
Christopher Nolan, là, après Dunkirk, là, ça serait le fun, me semble, qu'il revienne aussi à un genre de... petit film là, tu sais.
Ouais,
lui qui vient de Following puis Memento là, c'est
quand ouais, même... ouais. Mais Nolan, tu sais, il a quand même pas perdu sa touche là contre.
Mais non, comme... mais non, c'est ça. Ouais. Mais on dirait que je sais pas. Il y a une partie de moi qui aimerait ça voir qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui avec toutes les skills puis l'expérience acquis puis de revenir à quelque chose de restreint. Ouais. Je suis sûr que ça serait génial. Hein.
Moi, j'avais collé justement Sam Raimi qui finissait la trilogie Spider-Man.
C'est ça.
Puis c'est le 3 qui l'a tué partout, là, critique les fans. Mm. Puis il a décidé de faire Drag Me to Hell avec zéro budget pour faire un truc pour le fun puis se ressourcer.
Ouais.
Là.
Ou tu sais, un Peter là. Jackson là, qui revient à une espèce de film de zombie ou quelque chose. Là. Ça serait cool. Là. Mais Split, franchement, c'est vachement bien. Puis surtout James McAvoy, tu sais, s'en donne à cœur joie. Donc ça c'est vraiment bien, mais tu sais, faut le voir vraiment pour ce que c'est quand même un petit film qui est pas exempt de défauts, notamment tu sais dans l'écriture des personnages secondaires puis des victimes là, qui sont tu sais qui se laissent un peu victimiser dans un sens là. Donc ça c'est un peu dommage, mais faut pas gâcher son plaisir pour autant, et on s'en reparlera entre nous quand vous arrivez le film là, du fameux twist, tu sais, si ça a marché pour vous. Donc voilà, ça fait le tour de notre point de vue cette semaine. On va se quitter sur la bande-annonce du film Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau, de Mathieu Denis et Simon Lavoie, qui prend l'affiche à vendredi 3 février, enfin. Toi, Pascal, tu l'avais encensé, tu as donné une critique 4 étoiles.
Un gros crisse de coup de poing d'en face, ce film-là, pour vrai. Voyez-le, faites-vous votre idée, ça fait du bien, ça revigore.
Ouais, possiblement le premier film majeur québécois de l'année, là, tu sais, c'est un espèce de gros canon qu'on a bien hâte de voir, qui avait gagné le prix du meilleur film canadien à TIFF. Donc voilà, c'est notre point de vue. Mon nom est Paul Landriau, j'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.
On peut pas rester assis sur nos culs. Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on bouge, faut qu'on aille plus loin.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi aller plus loin?
Après 12 semaines de grève, d'assemblées, de manifestations, d'arrestations, de solidarité, on aboutit à quoi?
Tu sais, moi aussi j'ai essayé. À un moment donné, tu vieillis, tu commences à avoir peur. Il faut que tu travailles, tu gagnes de l'argent, puis pour ça, tu laisses de côté des idées de grandeur.
Ben, je m'excuse, mais moi, je dis non! Et on n'a pas passé 3 mois dans la rue pour accepter ça! Non!
Le peuple ne sait pas encore qu'il est malheureux. Nous allons le lui apprendre.
Nous ne prendrons pas de juste milieu. Nous ne prendrons rien de moins que la démesure.
Tu vas voir, on va le changer, le monde, nous autres.
Un îlot de chaleur à froid!